Il était une fois.
Cette histoire se passe dans un pays tout plat, à part une montagne qui se dresse là au milieu du pays. Elle est entourée d'un fossé très profond. Et en haut de la montagne, il y a un château qui se dresse avec des tourelles, des murailles. Les gens du pays ne savent pas comment il se fait qu'il y a un château là-haut qui l'a construit. C'est très difficile d'aller sur cette montagne. Et qui habite là ? Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui habite ? On ne voit jamais personne. Parfois un peu de lumière, les soirs d'orage. Alors est-ce que c'est le reflet des éclairs là, sur les murs ? Est-ce que c'est quelqu'un qui allume un feu ? Quelqu'un qui allume des chandelles ? On ne sait pas. On l'appelle le château de la dame. Mais qui est cette dame ? Et il y a un jeune homme dans ce pays qui est cordonnier, qui est fasciné par ce château. Depuis tout petit, il veut aller le visiter. Et un matin, il se décide. Il prend une corde, il se rend là, devant le fossé, il attache un bout de sa corde à un tronc d'arbre, il descend au fond du fossé, il lâche la corde et il se met à grimper en face. Le versant est vertigineux. Il s'accroche, il s'agrippe à tout ce qu'il peut, des branches, des racines, des lianes, des troncs, des rochers. Parfois une branche casse, alors il redescend de plusieurs mètres et puis le voilà qui remonte. Quand il arrive là-haut, devant la grille, c'est le soir. C'est une nuit de pleine lune qui lui permet de voir une petite clochette avec une petite chaîne. Il tire sur la chaîne. Personne. Pas de réponse, pas de lumière, rien. Il retire sur la chaîne. 3 fois, 10 fois, 20 fois, il tire sur la chaîne. Enfin, une lueur apparaît. Une vieille servante boiteuse traverse la cour et vient se placer devant lui de l'autre côté du portail. « Eh ben dis donc la vieille, c'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je tire sur la chaîne. Qui êtes-vous ? Je suis le chevalier d'or, » dit le cordonnier pour se donner de l'importance. La vieille sort une clé, déverrouille le portail et le cordonnier la suit jusqu'à l'intérieur du château. Elle le fait entrer dans une chambre jaune. Les murs sont jaunes, les draps dans le lit sont jaunes, la nappe sur la table est jaune, les 2 fauteuils sont jaunes. Elle lui apporte un repas. « Dis donc la vieille, je vais pouvoir les voir, les maîtres du château, la dame, là, demain ?»«
Demain est un autre jour, » répond la servante.
« Oui, demain est un autre jour, d'accord, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Est-ce que je pourrais les voir, les maîtres, demain ?»«
Demain est un autre jour. »«
Ah, va-t'en, boiteuse, tu es folle, tu ne me sers à rien, va-t'en. » Et la servante sort de la pièce. Le jeune homme finit de manger. Il se couche entre les draps jaunes, il s'endort. Le lendemain matin, il se réveille. Il sort de la chambre. Il essaye d'ouvrir des portes, mais elles sont toutes fermées, sauf une. C'est une porte qui donne sur la cour. Alors il ressort du château. Il descend jusqu'au fond du fossé. Il retrouve la corde, il remonte, il regagne sa petite échoppe de cordonnier. Mais il a très envie d'y retourner dans ce château. Et il s'en veut de ne pas avoir insisté auprès de la vieille servante pour voir la dame du château, les maîtres. Alors, quelque temps plus tard, il reprend sa corde, il se rend devant le fossé, il attache la corde au tronc de l'arbre, il descend et il remonte. Au prix de 1000 peines, il arrive enfin, quand c'est la nuit, une nuit de pleine lune de nouveau, devant le portail. Il tire sur la petite chaîne. Le carillon résonne. Mais personne ne bouge, pas la moindre lumière, rien. Il insiste, enfin une ombre apparaît. C'est un homme très grand, qui louche. Il doit être palefrenier parce qu'il a des brins d'herbe dans les cheveux, sur ses habits. « Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je tire sur la chaîne, moi. Qui êtes-vous ? Je suis le chevalier d'or et d'émeraude. Ouvre-moi vite !» Le palefrenier prend sa clé, déverrouille le portail. Le cordonnier le suit jusqu'à l'intérieur du château et il se trouve dans une chambre verte.
Le palefrenier apporte un repas. « Dis donc tes maîtres, je vais pouvoir les voir, oui. Est-ce qu'ils sont visibles, la dame, là ?»«
Il y aura deux robes. » »«
Mais c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande, est-ce que je vais pouvoir voir les maîtres du château, le châtelain, la châtelaine ?»«
Il y aura deux robes. » »«
Ah, mais tu es stupide, bigle, va-t'en, tu ne me sers à rien. »
Le palefrenier sort de la pièce. Le cordonnier se couche entre les draps verts de la chambre. Le lendemain matin, quand il se réveille, il se lève, il sort dans le couloir, il ouvre une porte et il se trouve dans une chambre toute blanche. Et il y a là un tableau accroché à un mur. C'est le portrait d'une femme. Il reste là, en arrêt. Il contemple ce portrait longuement. Et puis il ressort de la pièce. Il ouvre une porte, c'est la porte qui donne sur la cour. Alors il quitte le château, il redescend la pente vertigineuse, se retrouve devant la corde, il remonte et il regagne sa cordonnerie. Il est amoureux. Il pense à cette femme du portrait. Et quelque temps plus tard, il se décide, il reprend sa corde, il va devant le fossé, il accroche la corde, descend, il remonte. Avec ses ongles, avec ses mains, avec ses coudes, avec ses pieds, avec ses dents, il monte, il monte. Et c'est la nuit, quand il arrive là-haut, une nuit de pleine lune, il tire sur le carillon. Personne, pas de lumière, rien. Il insiste, il insiste, il insiste. Enfin, quelqu'un apparaît. Une femme énorme, avec un tablier autour de sa taille gigantesque. C'est une cuisinière.
Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt, ça fait une heure que je tire sur la chaîne, là, moi.
Qui êtes-vous, monsieur ?
Je suis le chevalier d'or, d'émeraude et de saphir. Ouvre-moi le portail.
Elle sort la clé, déverrouille le portail et il la suit. Il se retrouve dans une chambre bleue. Elle lui apporte un repas.
Dis-moi, ton maître, ta maîtresse, le châtelain, la châtelaine, je vais pouvoir les voir, oui ?
Oh, j'aimerais bien me marier, moi aussi.
Mais c'est pas ça que je te demande, ton maître, ta maîtresse, je peux les voir, oui.
Oh, j'aimerais bien me marier, moi aussi.
Tu es sotte, monstre, va-t'en.
Elle sort de la pièce. Il se couche entre les draps bleus, mais ne trouve pas le sommeil. Alors il se relève, sort de la chambre, essaye d'ouvrir une porte qui s'ouvre. C'est une chambre rouge. Il y a un parfum délicieux dans cette chambre. Le lit est recouvert de draps rouges avec des oreillers rouges qui dégagent des senteurs sublimes. Il est pris de vertige par cette odeur. Il est si épuisé, il se couche entre les draps rouges et le voilà qui s'endort. Quand il se réveille, il se lève, il sort de la pièce, il va ouvrir une porte, mais c'est la porte qui donne sur la cour.
Alors il ressort, il redescend, il retrouve la corde, il remonte, il regagne sa cordonnerie.
Il est malade, malade d'amour maintenant. Il a tellement envie de retourner dans le château. Alors un jour, il reprend sa corde, il se rend devant le fossé, il accroche la corde à l'arbre, il descend, il remonte, et voilà que l'orage éclate. Un orage épouvantable. Il monte tout de même, c'est encore plus difficile que d'habitude. Quand il arrive enfin là-haut, il est ruisselant d'eau, trempé jusqu'aux os.
Il ne voit pas la clochette ni la petite chaîne. Le portail est ouvert. Tout a l'air désolé, le château semble en ruine. Il y a des herbes folles qui ont poussé au milieu de la cour. Il y a des feuilles mortes, balayées par le vent, des tuiles qui sont tombées du toit.
Alors il crie.
Je suis le chevalier d'amour, de mort et de chagrin. Ouvrez-moi la porte.
Mais la porte est ouverte. Alors il entre. Il pénètre dans une chambre noire. Tout est noir. Les murs, les draps dans le lit, la nappe sur la table, les deux fauteuils. Il y a là un feu qui flambe dans la cheminée. Il y a là un repas. Il mange, puis il se couche dans le lit, mais ne trouve pas le sommeil. Le lendemain matin, quand il se lève, il y a là un petit déjeuner qui l'attend. Alors il mange, il essaye d'ouvrir la porte de sa chambre, mais elle est fermée à clé. Et 3 jours passent comme ça. Il essaye de dormir la nuit, mais n'y arrive pas. Et régulièrement, des repas apparaissent là, servis sur la table. Il ne sait pas qui les prépare, qui les lui sert. Et le 3e soir, alors qu'il est assis sur un des 2 fauteuils noirs à contempler les flammes dans l'âtre, il sent une présence. Il se tourne vers le fauteuil d'à côté. Il y a là une personne. « Qui êtes-vous ?»« Je suis la dame du château. »« Mais je suis venue plusieurs fois dans ce château. Jamais je ne vous ai vu. Pourquoi ?»« Si, si, vous m'avez vu. » Et vous m'avez traité de sale boiteuse, de méchant bigleux, de monstre. C'était vous ? Les domestiques, c'était vous ? Comment ça se fait ? J'ai été victime de sortilèges. Et je suis sans cesse en métamorphose. Mais comment pouvez-vous arrêter ce sortilège ? Le jour où je me marierai et que quelqu'un m'épousera par amour. Mais pourquoi ce sortilège? Qui vous l'a infligé? C'est un sorcier. Je ne voulais pas lui obéir et il m'a condamné à de perpétuelles métamorphoses. Et comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle la dame de boiterie, de loucherie et d'énormité. Et elle disparaît. Le cordonnier fouille partout dans la pièce pour essayer de la retrouver, mais elle a disparu. Et il essaye une nouvelle fois d'ouvrir la porte de la pièce noire. Cette fois, elle s'ouvre. Ça faisait 3 jours qu'il appuyait sur cette poignée et ça ne s'ouvrait pas. Et voilà que ça s'ouvre. Il sort dans le couloir. Il essaye d'ouvrir toutes les portes. Une seule s'ouvre. C'est celle qui donne sur la cour. Alors il repart. Il descend. Il arrive devant la corde. Il remonte. Il reprend son métier de cordonnier. Le temps passe. Plus tard, il se marie avec une femme qu'il aime beaucoup. Il a 3 enfants avec elle, une fille, puis un garçon et encore une fille. Et à ses enfants, il leur apprend à ne pas juger les gens sur leur apparence, mais à s'intéresser à ce qui est à l'intérieur des gens, ce qu'on ne voit pas. Les enfants grandissent. Il se marie, il quitte la maison, et l'épouse du cordonnier tombe malade et elle meurt. Le voilà tout seul et vieux. Il n'a plus la force de descendre en bas du fossé et de remonter de l'autre côté, mais il pense toujours à cette dame du château. Mais le château est en ruine maintenant, depuis bien longtemps. Les tourelles sont écroulées, les murailles sont fendues. Alors il se dit que la dame a dû quitter ce château et partir ailleurs, ou alors elle est morte. Dans son échoppe, il prend toutes les paires de chaussures et il se met à voyager. Il use les paires de chaussures à force de marcher. Il va dans les villages, dans les villes et partout il demande « Est-ce que vous connaissez la dame de boiterie, de loucherie et d'énormité ?» Mais les gens ne la connaissent pas. Il voyage. Il use les paires de chaussures. Il est en train d'user la dernière quand le voilà revenu à son point de départ. Il retrouve son pays, qui a changé. Sa petite échoppe n'est plus une échoppe de cordonnier, elle a été remplacée par un serrurier. Et le château a beaucoup changé, il a été refait à neuf. Il y a maintenant un pont qui enjambe le fossé. Il est très facile de monter jusqu'au château. Il y a là un jeune seigneur qui va se marier le lendemain. Alors il décide d'aller le trouver, le cordonnier. Pour obtenir des renseignements, il demande une audience au seigneur qui lui dit « Tu sais, je me marie demain, je suis en plein préparatif, alors si tu m'as dérangé pour une question sans importance, je vais te jeter en prison. » Le cordonnier lui dit « Je suis venu pour une affaire très importante pour moi. Je connais ce château, j'étais venu il y a très longtemps, j'habitais dans le pays.
et j'y ai rencontré une dame qui se faisait appeler la dame de boiterie, de loucherie et d'énormité. Est-ce que vous savez où elle est ?
Non, je n'en sais rien. Moi-même, ça ne fait pas longtemps que j'habite dans le pays et je suis jeune, mais tiens... Je peux demander à des personnes âgées autour de moi. Tiens, je peux faire venir le vieux curé. Tiens, peut-être qu'il la connaît. On fait venir le vieux curé, on lui demande s'il connaît la dame de boiterie, de loucherie et d'énormité. Et l'homme d'église ne la connaît pas. On fait venir le vieux général des armées. Il ne la connaît pas non plus. On fait venir le vieux médecin. Mais le docteur ne... T'as jamais entendu parler de dames, de boiteries, de loucheries et d'énormités ? Et à ce moment-là, entre la fiancée du Seigneur. Elle entre dans la pièce et elle dit « mon chéri, il y a un problème avec la robe de mariage. Demain, elle n'est pas prête. La vieille couturière, on est encore à faire des retouches. » Alors on fait venir la vieille couturière. Et le cordonnier a l'impression de la connaître. Le Seigneur demande à la vieille femme « Eh bien, cette robe, la robe de mariage, elle sera prête pour demain ?» Et la vieille répond « Demain est un autre jour. » Le cordonnier lui dit « Il y aura deux robes ?» Elle se tourne vers lui et répond « J'aimerais bien me marier, moi. » Alors il la reconnaît. C'est elle, la dame, de boiterie, de loucherie et d'énormité. Tout le monde veut savoir leur histoire. Et il raconte son histoire, le cordonnier. Et la vieille couturière aussi raconte son histoire, comment elle avait été victime d'un sortilège lancé par un sorcier et comment elle était condamnée à la métamorphose jusqu'au jour où elle épouserait un homme par amour. Alors le vieux cordonnier lui a demandé si elle voulait bien l'épouser. Elle a accepté. Et le lendemain, ça a été un double mariage. Le Seigneur et sa fiancée, le vieux cordonnier et la vieille couturière. Dans la même église, à la même heure, ces deux couples se sont unis. Et parmi ces quatre mariés, les plus heureux et les plus émus n'étaient pas les plus jeunes.
Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison. Mes parents pour un soir étaient allés voir un opéra. J'en avais pour un bon moment, ça n'arrivait pas si souvent. C'était comme une trêve, c'était comme un rêve, comme l'opéra. J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or. Je me battais comme un fou, par amour pour vous. Je me battais comme un roi, par amour pour toi. Je n'étais qu'un petit garçon, mes paroles étaient des chansons. Il n'y avait ni tambour ni baryton pour mon opéra. Mais dans mon imagination, il y avait 10 000 violons qui jouaient ma victoire, faisaient de ma gloire un opéra. J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or. Je me battais comme un fou, rendant coup sur coup. Je me prenais pour un roi, par amour pour toi. Et devant l'enfant que j'étais, toute la maison devenait une scène, un décor, et c'était alors mon opéra. Je m'endormais sur les trois coups, qui n'étaient peut-être après tout qu'un volet qui battait quand il revenait de l'opéra. Mais j'étais dans mon château fort, et j'avais mon épée en or. Je me battais comme un fou, par amour pour vous. Je me battais comme un roi, par amour pour toi. Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison. Mes parents pour un soir étaient allés voir un opéra. La 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 la. La 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 la